Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Podcraft, c'est le 7ème. En préambule, je vous invite à écouter le Podcraft numéro 5 où j'étais en compagnie de Blast et Shanji, joueur Frenchcraft de très bon niveau. Cet épisode que je vous propose vient un peu en complément puisqu'on va essayer de s'intéresser à l'aspect psychologique et cognitif de ce que ça implique dans les processus mentaux d'être bon joueur, quelle différence avec d'autres, comment on le devient, sommes-nous tous égaux face aux skills. Bon, on va essayer de dégrossir tout ça en s'appuyant notamment sur différentes études et commentaires. Vous verrez qu'on parle finalement assez peu de Warcraft 3 en lui-même, pour ne pas dire pas du tout, c'est un peu du hors-série, mais on va essayer de s'y raccrocher ici et là, alors vous également essayez de vous accrocher. C'est parti! On pourrait résumer les points forts des bons joueurs à un niveau de concentration élevé, une certaine résistance au stress, une prise de décision rapide et efficace, et une exécution motrice précise. Sauf qu'ici, on aurait une photographie à un instant T de ce qui caractérise ces joueurs. Mais comment on en arrive là? C'est toujours un peu l'éternelle question de l'œuf ou la poule. Avait-il des capacités innées? Et dans tout ça, qu'est-ce qui relève de l'acquis? Comme beaucoup de choses, les raisons pour lesquelles telle ou telle personne se révèle être particulièrement douée dans un certain domaine sont diverses et variées. La génétique, certes, mais pas que. L'environnement, l'éducation, la culture, la santé mentale, bref. Tout ce qui nous construit dans notre enfance, en particulier, a un impact sur notre devenir. Quelqu'un qui fait du basket, qui a fait du basket dans sa petite enfance, aura sans doute plus de facilité qu'un autre dans un sport collectif, qui n'en aurait jamais fait, puisqu'il aura déjà développé une proto-forme d'esprit d'équipe, une certaine visualisation dans l'espace, sans compter l'activité physique, qui l'aurait mis dans des bonnes conditions. Maintenant, on sait bien que ça ne fait pas tout, et ça ne garantit pas qu'à terme, le premier individu, donc celui qui a commencé par faire du basket, sera meilleur que le second qui n'en a jamais fait dans un autre sport collectif. Par ailleurs, on a des exemples réguliers de joueurs qui passent d'un jeu à l'autre et qui ont un niveau très élevé, très rapidement. On peut penser notamment à StarCraft 2 vers Warcraft 3, on a beaucoup d'exemples, et inversement, ou vers LoL ou Dota, où certaines de ses compétences sont importantes. Alors peut-être pour commencer, une définition de ce qu'on appelle le cognitif, c'est ce qui relève des processus mentaux liés à la mémoire, à la perception, au raisonnement, bref, tout ce qui est de l'ordre du traitement intellectuel des informations. On a d'abord une étude de 2024, alors c'est une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est vraiment un croisement de plusieurs études qui a été réalisée par des doctorants de l'université de Beijing et de Wuhan en Chine. Je vous mettrai de toute façon toutes les références de ces études dans la description du podcast. Cette méta-analyse qui s'appelle l'expertise cognitive chez les experts en e-sport. L'objectif de cette méta-analyse, c'était de quantifier les différences cognitives entre les experts en e-sport et les amateurs. Les experts en e-sport, en fait, tout simplement les athlètes. Donc, je crois qu'ils ont dû réunir une quinzaine d'études pour un total de 1085 participants. Voilà, donc c'est quand même plutôt significatif. Différences entre les athlètes et les amateurs visiblement se manifestent dans la cognition spatiale et l'attention, puisqu'il s'est révélé suite à ces études qu'effectivement donc les athlètes e-sport surpassent effectivement les amateurs dans des tâches cognitives spécifiques, notamment en ce qui concerne la mémoire de travail spatial et la rotation mentale. Donc la rotation mentale, c'est la manière de visualiser les objets et de pouvoir les tourner, si je puis dire, dans sa tête sans l'avoir physiquement en face de soi. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué, je pense que, en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'effectivement, cette étude confirme qu'on a des capacités cognitives supérieures chez les athlètes e-sport. Et dans le prolongement de cette étude, alors en 2018 cette fois, donc une autre étude qui est réalisée cette fois par des chercheurs de l'université de psychologie de Varsovie, en Pologne, intitulée « L'expérience du jeu vidéo RTS et la connectivité structurale ». Donc cette étude-là visait à comparer la structure de la matière blanche du cerveau chez les joueurs de RTS en comparaison avec les non-joueurs. Donc la matière blanche, sans rentrer dans le détail, parce que je suis absolument pas docteur, donc je risque de dire des énormes conneries, la matière blanche joue un rôle dans la propagation de l'information. Globalement, ça, je pense que ça fait plein d'autres choses, mais voilà. Donc ces résultats ont montré que l'expérience intensive à long terme de jeux RTS va induire des altérations dans la structure de cette matière blanche et en particulier dans la connexion entre le lobe occipital et le lobe pariétal. Donc le lobe occipital, c'est la zone du cerveau qui est responsable du traitement visuel. Là où le lobe pariétal va plutôt se charger de la perception spatiale, de la navigation et de la coordination des mouvements. Donc c'est à nouveau une étude qui vient confirmer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le cognitif et en particulier sur la flexibilité cognitive. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du cognitif. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à prendre en considération quand on va évoquer les principaux atouts des bons joueurs? C'est en tout cas ce qu'ils ont essayé de faire à l'Université Polytechnique de Madrid en fin 2024 et sur une étude qui a été publiée en 2025, donc très récente, qui visait à identifier les facteurs psychologiques qui influencent la performance des athlètes e-sport. Et les résultats suggèrent que, effectivement, la caractéristique la plus significative derrière la performance des joueurs e-sport, c'est leur personnalité résiliente et leur résilience. Donc la résilience, qui est la capacité à surmonter les traumas, les échecs, les épreuves d'une manière générale. Donc il y a d'autres traits, comme la tolérance au stress et l'attention soutenue, qui ont également montré des valeurs élevées, mais c'est vraiment la résilience qui ressort de tout ça. Alors les résultats sont un petit peu variables en fonction du jeu qui a été expérimenté, que ce soit du jeu individuel ou du jeu collectif, où effectivement les compétences de coopération et de communication vont changer. Mais la résilience reste toujours présente. Donc c'est intéressant parce que la résilience, c'est sans doute ici, je pense, qui se cache derrière le fameux ladder anxiety que certains peuvent avoir, que moi-même je connais. Et dont on avait parlé à l'épisode 5, là où Blast et Shanji, par exemple, disaient qu'ils ne connaissaient pas ce ladder anxiety. Donc cette capacité à enquiller les parties, essayer de devenir meilleur, quitte à perdre, et continuer dans un cercle un petit peu vertueux, là où d'autres seront freinés parce que trop éreintés, ou en tout cas trop abîmés par ces parties-là. Donc un article qui est intéressant, je vous invite à lire, que je mettrai dans la description aussi. Pourquoi est-ce compliqué de passer du bon temps à jouer à Warcraft 3? C'est un article sur Warcraft 3 Info. La compréhension du stress dans le gaming, qui est un article de The Mental Craft. Alors je crois que c'est une ancienne coach de LoL qui a écrit cet article, puisque ça reste valable, même si c'est un autre jeu vidéo, ça reste valable bien entendu. On reboucle avec la première partie ici, puisqu'on vient de montrer, ou en tout cas de proposer, que la résilience et la gestion du stress permettent la pratique régulière, et la pratique régulière entraîne une amélioration des capacités cognitives, qui sont elles-mêmes facilitantes de la pratique du jeu vidéo. La boucle est bouclée, mais comment ça fonctionne? En quoi l'entraînement peut faire de moi quelqu'un de meilleur? Une piste qu'on pourrait suivre vient du côté des deux systèmes de pensée, système 1, système 2. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce système de pensée, c'est une thèse qui a été beaucoup popularisée et mise en lumière par le psychologue Daniel Kahneman en 2011, via son livre Système 1, Système 2, les deux systèmes de pensée. Encore une fois, c'est quelque chose de plus ancien que ça, mais lui, il l'a un petit peu popularisé via ce livre. Donc, ce concept repose sur le fait que nous fonctionnons tous avec deux modes de pensée, deux vitesses de pensée. La première, qui est le système 1, qui est automatique, quasiment involontaire, et demande peu ou pas d'efforts. Et la deuxième, qui va nécessiter à votre cerveau d'aller creuser un peu plus ses méninges, et donc demande des efforts de concentration. Exemple, si je vous dis 2 fois 2, vous me dites assez rapidement 4, on est dans le système 1. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous savez, ça fait partie de vos tables de multiplication, et vous n'avez pas besoin de réfléchir pour donner la réponse rapidement. Maintenant, si je vous dis 235 par 72, ça vous demandera du temps, un peu d'effort et d'appliquer une méthode de multiplication. Donc certes, on applique une méthode qu'on connaît, mais le temps de résolution sera beaucoup plus long et pas instinctif. Donc là, on est dans le système 2. Et ça marche pour à peu près tout. L'idée étant que dans 90% du temps, votre mode de pensée du système 1 vous permettra de répondre, de prendre une décision, d'agir rapidement et sans effort. C'est aussi un trait de survie que l'humain a acquis. Donc c'est l'apprentissage, votre histoire, votre expérience qui vous permet de renforcer votre système 1 et de rendre automatique certains raisonnements. Donc l'apprentissage, nous y voilà. De la même manière qu'un pianiste répète ses gammes, qu'un joueur de football répète ses passes ou ses frappes, qu'un joueur d'échecs répète ses ouvertures, un joueur de Warcraft 3 par exemple devra répéter ses BO, ses creep routes, l'utilisation de ses hotkeys, répéter des scénarios qu'il va savoir identifier pour lesquels il va s'adapter le plus en plus rapidement, pour ne plus avoir à réfléchir de trop, pour consacrer son système 2 à d'autres tâches. Donc le système 2 est énergivore, il requiert de l'attention, beaucoup d'attention, parfois tellement que son utilisation dépasse sa capacité, aboutissant à ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Donc la surcharge cognitive, elle intervient quand il y a trop pour le cerveau, pour qu'il travaille convenablement. Trop d'émotions, trop d'informations, trop de concentration, et on va se retrouver avec une performance qui est diminuée. Un oubli dans son BO, plus de stress, plus de frustration, et parfois même le fameux tilt, ou quand les mots dépassent la pensée. Donc tout l'intérêt de l'entraînement, il est là, c'est de faire en sorte qu'un maximum de ses actions et ses décisions soient assimilées, intégrées, pour que votre système 1 les exécute presque de manière implicite. Envoyer les pions à l'or, la construction de l'altar, les deny, le timing, etc. Le tilt n'est qu'un aspect de ce qu'on peut ressentir lors de la pratique du jeu vidéo, mais un contexte fait que ce tilt, ou sans aller jusqu'à l'extrême, que ce ressenti négatif apparaît, pouvant entraîner une perte de motivation et de performance. Sur Warcraft 3, comme dans la majorité des jeux en ligne, il y a un leaderboard ou un ladder, donc un système de classement à points qui permet à tout un chacun de se situer par rapport aux autres et de se fixer des objectifs de progression. Donc si je reprends mon exemple personnel et que j'évalue mon stress face à différentes situations, ça donnerait à peu près ça. Mon niveau d'appréhension et de stress est maximal quand je m'apprête à jouer une partie de ladder classée, donc contre un autre être humain. Un ladder non classé, mon stress diminue légèrement, puis si je joue contre un ordinateur, je ne ressens plus aucun stress. C'est valable pour moi, donc ça vaut ce que ça vaut. Deux notions ici, le fait de jouer contre un autre être humain, plus le fait de jouer sur un système classé. Donc d'abord le fait de jouer contre un autre être humain. Donc une étude de 2009 a montré comment des zones cérébrales liées à la théorie de l'esprit, donc à savoir le fait de se représenter ce que l'autre pense, et aux attentes sociales, sont activées uniquement lorsque le joueur croit affronter un autre être humain, même si l'adversaire est en réalité un algorithme. Ce qui est important, c'est ce que la personne pense. C'est un article de Ars Technica. Donc le cerveau bascule dans un autre mode quand on pense jouer contre un humain. Il y a alors compétition d'égal à égal et on fait jouer la comparaison sociale. L'humain est un animal social, qu'on le veuille ou non, et ça joue forcément sur ce point. De l'autre côté, jouer contre une IA peut relever plus du défi technique, logique, et c'est quelque chose qui est donc moins menaçant pour son ego, puisque finalement on en revient un petit peu toujours à ça, quoi. Donc on se retrouve avec deux cas de figure ici, le réflexe de s'épargner des situations difficiles en ne jouant que dans des environnements non générateurs de stress. On s'évite les émotions négatives, mais pas que. Être dans une situation stressante, certes, ça peut faire tilter, mais à l'inverse, quand ça se passe bien, le sentiment de satisfaction et de plaisir est bien plus intense et satisfaisant que contre un vulgaire ordinateur. Et à nouveau, on peut se retrouver dans un cercle vertueux où on va rechercher ce plaisir-là. C'est là que la dopamine rentre en jeu aussi, qui est un neurotransmetteur bien connu, parce qu'on en parle pas mal, lié au système de récompense dans le corps humain. L'incertitude du résultat, le risque lié à la perte ou le gain d'un statut va favoriser la libération de cette dopamine. Contre un ordinateur, rien de tout ça. Une étude le confirme par ailleurs de 2024, où on a comparé les réactions de joueurs perdants pensant jouer contre une IA ou un humain. En cas de défaite, il s'est avéré que en cas de défaite face à une IA, les participants étaient moins enclins à rejouer ensuite. La deuxième notion, c'est le système de classement avec points, donc le ladder. Là encore, et en dézoomant un peu, on fait intervenir la comparaison sociale. Le classement est vu comme un reflet de sa valeur dans un certain contexte. Et là, cette fois, c'est une étude de 2021 sur le positionnement dans un classement et sa relation au stress qui a révélé que la simple introduction d'un leaderboard était facteur de stress, sa simple existence. Et comme on l'a vu précédemment, environnement de stress implique émotions plus grandes et potentiellement plus grande satisfaction, activant le système de récompense. Donc on est un peu dans le même schéma cette fois à une échelle plus large. Là-dessus, on peut parler de la théorie de l'autodétermination, qui est une théorie sur la motivation qui dit que l'on se sent motivé si l'on remplit ces trois critères. Donc le premier critère, l'autonomie. Le deuxième critère, la compétence. Et le troisième, qui est l'appartenance. Donc la pratique de jeu peut nourrir ses besoins, donc sur l'autonomie. On se crée son plan d'entraînement, son plan de bataille, sa stratégie, son build order, son creep route, etc. La compétence, qui est le ressenti qu'on a quand on progresse ou au contraire qu'on régresse. Donc l'appartenance, ou la relation sociale en fin de compte, le jugement de l'autre, la reconnaissance, etc. Donc en fin de compte, tous ces curseurs vont bouger et vont influencer chacun de ces aspects. Un comportement qui peut influencer notre progression est lié également au ressenti des victoires par rapport aux défaites. Enchaînez les victoires et vous serez content. Enchaînez les défaites, il est possible que vous ayez envie de tout arrêter et de balancer votre ordi par la fenêtre. Encore une fois, on n'est pas tous égaux ici, hein, ce que je dis là. Ça reste des généralités, mais on sait d'ores et déjà que les émotions négatives ont un ancrage plus fort et déclenchent une activité cérébrale plus forte que les émotions positives, d'une manière générale. Là aussi, c'est un héritage de notre évolution et ça s'appelle le biais de négativité. Je vais vous épargner les études et les liens dessus, il y en a un peu partout. Recherchez simplement biais de négativité et vous trouverez tout un tas de documentation là-dessus. Alors évidemment, on le sait tous, la seule pratique ne suffit pas et enchaîner les games ne vous garantira pas une première place au ladder. Bon nombre d'entre nous luttent depuis plus de 20 ans, moi y compris. Bon, j'ai arrêté de lutter, hein. Les stratégies, elles s'étudient, les défaites, les victoires, et une mise en pratique de vos connaissances au-delà de tout système doivent être appliquées avec méthode et rigueur. Voilà, il n'y a pas de formule magique, c'est ce qu'on peut conclure de ça, mais j'espère en tout cas avoir pu apporter un peu d'éclairage sur différents aspects. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si j'ai dit des grosses conneries, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, Tinker, sur Discord. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et bien entendu, à partager. Si vous avez d'autres idées de podcast, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Merci à vous et à bientôt pour un prochain podcast. Salut!